À 8h, le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, le Mali, de nouveau en proie aux attaques djihadistes après la mort de 49 militaires maliens vendredi. C'est un soldat français de l'opération Barkhane qui a été tué hier. Deux attaques revendiquées par le groupe État islamique. Amélie est arrivée sur les côtes françaises, accompagnée de vents violents. La première tempête automnale souffle depuis cette nuit sur le littoral atlantique, mais ce sont de fortes pluies qui font actuellement le plus de ravages sur le quart sud-est de la France. Les victimes des actes pédophiles au sein de l'Église catholique bientôt indemnisées. La conférence des évêques de France définira la semaine prochaine les modalités de cette reconnaissance financière. Scène de violence urbaine hier soir à Chantepoux-les-Vignes dans les Yvelines. Les assaillants s'en sont pris aux policiers et aux pompiers, incendiant au passage un chapiteau de cirque. À 8h10, le journal des sports présenté par Amaya Cazenave. Au sommaire, un retour sur la finale de la Coupe du Monde de rugby qui a vu la victoire hier de l'Afrique du Sud. La finale du tournoi de tennis au Rolex Paris Masters, ce sera cet après-midi entre Djokovic et Chapalov, sans oublier bien sûr de la Ligue 1 de football. Et puis à 8h20, la situation au Liban en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, Gilles Kepel, le directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École Normale Supérieure. Question aussi avec lui ce matin sur l'avenir de Daesh, qui a donc revendiqué la mort d'un militaire français au Mali.
France Inter.
Mais avant de développer tous ces titres, nous allons donc faire le point ce matin sur la situation au Mali avec 49 militaires maliens tués vendredi lors d'une attaque dans le nord-est du pays, selon un dernier bilan, et un soldat français de l'opération Barkhane mort hier dans la région de Ménaka après le déclenchement d'un engin explosif au passage de son véhicule blindé. Deux attaques, deux attentats revendiqués hier soir par le groupe djihadiste État islamique. Tout laisse penser, Bertrand Galichet, que l'on assiste à une remontée en puissance des djihadistes dans cette région malienne proche du Niger.
Oui, même si l'état-major français assure qu'il n'y a aucun lien entre l'explosion qui a tué le brigadier Ronan Pointeau et l'attaque dans laquelle 49 soldats maliens ont trouvé la mort, la revendication du groupe État islamique prouve la montée en puissance des djihadistes dans ce secteur et au-delà, car la région où les organisations terroristes tuent civils et militaires s'étend dans un vaste périmètre aux confins du Mali, du Niger et du Burkina. La multiplication des attaques, notamment contre l'armée malienne, illustre une autre réalité, l'incapacité des militaires maliens non seulement à maîtriser le terrain, mais aussi à assurer leur propre sécurité. Et les Français de l'opération Barkhane, qui portent des coups très durs aux djihadistes, ne peuvent pas suppléer au manquement d'une armée malienne, souvent mal équipée et mal entraînée. La ministre française des armées a reconnu hier une situation sécuritaire dégradée dans la région. Florence Parly annonce qu'elle se rendra très prochainement au Mali pour y rencontrer les autorités. Elle demandera sans doute au gouvernement malien d'assumer ses responsabilités pour s'imposer dans des régions qui échappent de plus en plus au contrôle du pouvoir central à Bamako.
Bertrand Galichet, j'ajoute que le brigadier Ronan Pointeau, décédé hier et dont Emmanuel Macron a salué le sacrifice, faisait partie du 1er régiment de Spahi de Valence. Il avait 24 ans. 13 morts, c'est le bilan provisoire d'une explosion à la voiture piégée qui s'est produite hier dans le nord-est de la Syrie. Explosion qui a eu pour cadre la localité de Tal Abayad, une ville reprise par les Turcs aux mains des Kurdes le mois dernier.
Retour en France, où la tempête Amélie s'est donc abattue comme prévu cette nuit sur tout le littoral atlantique.
Accompagnée de vents violents, très violents, certains atteignant les 150 km/h, et de pluie, Amélie a en effet touché les côtes du littoral atlantique cette nuit. Toutefois, les dégâts signalés restent limités. Illustration de ce passage en Charente-Maritime avec Pierre Marsat de France Bleu La Rochelle.
À La Rochelle, très peu de dégâts apparents, surtout des feuilles sur les chaussées et quelques branches tombées des arbres, des poubelles renversées, mais pas de route inondée malgré les fortes pluies. Le vent a soufflé très fort entre 2h et 3h du matin, 70 nœuds, soit 130 km/h relevés au port des Minimes. Seul dégât signalé par la capitainerie des Minimes, un bateau sur remorque qui s'est couché près du forum des Pertuis. Ce sont les barrières des chantiers en cours dans le quartier de l'Alleu, par exemple, qui ont surtout souffert du vent. Et puis, près de la gare, un échafaudage s'est écroulé sur une voiture de grosse cylindrée. Le vent s'est calmé vers 4h du matin, mais il recommence à forcir avec des pointes à 50 nœuds, 90 km/h. Heureusement, le petit coefficient de marée, 51, permet d'espérer l'absence d'une submersion marine. Malgré tout, les liaisons maritimes entre l'île d'Aix et le continent sont annulées aujourd'hui jusqu'en fin de journée.
Une tempête légèrement apaisée qui devrait ensuite, dans la matinée, gagner le massif central. Et alors que deux départements du sud-est de la France, les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud, ont à leur tour été placés ce matin en alerte orange. dimanche, mais une vigilance orage, forte pluie et inondation. En fait, c'est tout le quart sud-est de la France qui est actuellement touché par de fortes pluies entraînant ces inondations.
Bientôt, un geste de reconnaissance financière pour toutes les victimes d'actes pédophiles au sein de l'Église catholique.
Selon le porte-parole de la Conférence des évêques de France, rencontré par nos confrères de France Info, la décision de principe est en effet actée. Les modalités de cette reconnaissance financière seront toutefois soumises au vote des évêques samedi prochain à Lourdes, mais on en connaît d'ores et déjà les grandes lignes, Jérôme Jadot.
Une allocation de reconnaissance de la souffrance des victimes, c'est le nom retenu pour ce geste financier. Depuis un an, un groupe de travail planche sur le sujet. Il prévoit un dispositif pour l'ensemble des victimes d'actes pédophiles, qu'il y ait déjà eu une procédure judiciaire avec indemnisation ou que les faits soient prescrits. Le montant, lui, sera forfaitaire, précise Thierry Magnin. C'est le porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres de faits qui paraissent moins graves. Donc nous ne sommes pas en train de faire des gradations dans la souffrance. Des personnes ont souffert. C'est une reconnaissance, une forme de manifestation de la solidarité que nous devons vivre avec elles. La décision de principe est actée. Ce sont les modalités et le timing de tout cela qui sera déterminé.
Déterminer notamment le montant de ce geste, ce sera en milliers d'euros, indique-t-on. Environ 200 victimes pouvant y prétendre ont déjà été identifiées, mais il y en aura sans doute davantage. Pour le financement, cela doit se faire par un appel aux dons. Les ecclésiastiques coupables d'actes pédophiles pourront y contribuer. Les premiers versements sont attendus début 2020.
Jérôme Jadot est donc rendez-vous maintenant lors de cette assemblée plénière des évêques de France dont l'ouverture est prévue ce mardi à Lourdes. Assemblée qui refermera ses portes dimanche prochain.
Des scènes de violences urbaines hier soir à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines.
Vers 21h30, des individus ont en effet attaqué des bâtiments publics de la ville, puis tenté d'incendier le bureau d'information jeunesse avant de réussir à mettre le feu au centre des arts de la scène et du cirque inauguré l'année dernière. Pour le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, qui s'est rendu sur place dans la soirée, c'est la politique de rénovation urbaine et sociale lancée par la municipalité qui est visée.
Il y a depuis plusieurs jours des tensions parce que visiblement certains sont dérangés par le travail de fond mené par la municipalité de rénovation urbaine, mais aussi un travail patient avec toutes les associations pour recoudre le tissu social et donner de l'espérance à tous. On peut penser que tout ce travail dérange certains trafics, à l'évidence. C'est de la petite délinquance, ou de la délinquance plus organisée d'ailleurs, qui est objectivement dérangée dès que tous les pouvoirs publics conjuguent leurs efforts, comme c'est le cas à Chanteloup, et comme nous continuerons à le faire, car on ne baissera pas la garde.
Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, joint au téléphone par Sarah Guibaudot. Du hautbois, pour refermer ce journal, le hautbois qui s'est invité tout ce week-end à Auxerre, dans l'Yonne, pour son congrès annuel, au programme des concerts, donc des débats sur cet instrument qui fait moins d'émule que le piano ou la guitare, en raison de sa difficulté à en jouer. Le reportage de Soizic Pelé de France Bleu Auxerre.
Sur la scène, Joseph de Salvaire, élève au conservatoire, joue un solo, quelques minutes de musique seulement, mais des grandes respirations prises entre les notes.
C'est très important, c'est beaucoup de souffle, c'est beaucoup d'apnée. C'est un peu le paradoxe du hautbois, qui est un des instruments les plus importants de l'orchestre et qui fait partie des instruments les plus durs aussi.
Une difficulté ressentie par les gens du public, comme Vincent.
Ah ben, on a l'impression effectivement que le musicien met toute son énergie pour arriver à souffler. L'anche n'a pas l'air de vibrer toute seule.
Cyril s'en rend compte, il a commencé il y a tout juste 2 mois.
La première astuce qu'on m'a donnée, c'est de jouer l'anche toute seule sans hautbois et d'essayer de maintenir une note. Donc déjà ça, c'est pas facile. Il faut avoir du maintien aussi au niveau de la mâchoire, etc. Mais il faut faire attention à pas se faire mal. On peut vraiment avoir des crampes.
Mais cette souffrance en vaut la peine, assure Coralie Menuge. Elle joue du hautbois depuis ses 7 ans.
C'est vrai que quand on arrive à faire quelque chose de bien, on est forcément fier au final et tous les musiciens disent « Ah là là, on vous voit tout le temps galérer avec vos anges, c'est quoi cet instrument ?» Mais ça vaut le coup, franchement. Ça fait tout le charme de l'instrument. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... je trouve ça un instrument touchant.
Allez, au bois, au cerf et au liqueur sur France Inter, où vous retrouvez Eric Delvaux et Patricia Martin.
Oh là, Serge Martin pour le journal.